Mais je crois que le public qui aime le piano aime forcément Chopin, c'est pas possible autrement, justement. I make music for my people.
Bonjour, nous sommes ensemble sur France Culture pour une émission libre de tous les styles, de tous les récits, de toutes les provenances, de toutes les matières. Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale. Bienvenue. Et aujourd'hui, Chopin, l'éternel retour. Parfois, un air de jazz, une chanson disco, le gimmick d'un titre de R&B vous dit quelque chose. Cette mélodie, ce rythme, cette couleur, clairement ou plus confusément, vous la fredonnez déjà, vous la reconnaissez. Mais oui, c'est Frédéric Chopin. Pourquoi, comment, ce petit musicien polonais en exil, malade presque tout au long de sa courte existence, 39 ans, a-t-il été, et reste encore aujourd'hui, 172 ans après sa mort, l'un des compositeurs les plus repris de la musique populaire? Cité, transposé, plagié, réinterprété, comme le fait ici Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, à la guitare face à une foule de New-Yorkais ébahis, Chopin est partout, même parfois là où on ne le devine pas. De Tom Jobim à Radiohead en passant par Barry Manilow, les musiciens les plus novateurs de leur temps doivent beaucoup à celui dont on disait que ce n'était pas du piano qu'il jouait, mais de l'âme.
Well, believe it or not, that was a piece by Chopin.
Thank you.
Commençons peut-être par le commencement. L'étude numéro 3, l'opus 10 que vous venez d'entendre par l'un des meilleurs interprètes de Chopin, Maurizio Pollini, est l'une des œuvres les plus reprises. Chopin l'écrit à 21 ans, il vient d'arriver en France, il a fui son pays, la Pologne, qui est occupée à l'époque par la Prusse, la Russie et l'Autriche. Son talent musical, très tôt détecté et exploité par son père, le français Nicolas Chopin, qui rêvait d'en faire un enfant prodige à la Mozart, est déjà très remarqué. Il est passé par Berlin, par Vienne, il se fixe à Paris. À peine arrivé, il publie ce cycle des études qui va durablement marquer le piano moderne, instrument qui est alors en plein développement. On compte près de 100 facteurs de piano en France à l'époque. Et en imposant des compositions hyper mélodieuses, fruit de son inlassable plaisir d'improviser, eh bien, c'est tout à fait nouveau. Il les écrit pour ne jamais avoir à les jouer de manière parfaitement égale.
L'ombre s'enfuit, adieu vos rêves, où les baisers s'offraient comme des fleurs. La nuit fut brève, hélas, pourquoi si tôt fermer nos cœurs à l'appel du bonheur. L'ombre s'enfuit, ma lèvre hésite à murmurer après de doux aveux. Des mots d'adieu, le soleil paraît trop vite, faut-il donc que l'on se quitte, que m'importe à moi la balle du temps. Je voudrais tant.
Je n'écrirai jamais quelque chose de plus beau, dit Chopin à ses éditeurs quand il leur présente cette étude. Il la surnomme donc tristesse, pour dire finalement la mélancolie que la mélodie dégage, mais aussi la tristesse du compositeur qui ignore s'il pourra un jour faire mieux. Et c'est pour cela que pendant plus d'un siècle, elle va être reprise pour évoquer le manque amoureux. D'abord en Allemagne, où elle devient une ballade popularisée par le cinéma dans les années 30 sous le titre « In mir klingt ein Lied », puis ici par l'inénarrable Tino Rossi, qui en fait un archétype presque caricatural de la chanson de chagrin d'amour. Pourtant, la musique de Chopin n'est pas triste, en tout cas elle n'est jamais que triste. Entendre le même morceau joué deux fois par Chopin, c'était pour ainsi dire entendre deux morceaux parfaitement différents, disait son amie la princesse Czartoryska. Tout comme il était sans cesse à corriger, à changer, à modifier ses manuscrits, ainsi se mettait-il rarement au piano dans le même état d'esprit et de disposition émotionnelle. Au piano, l'étude implique un très grand travail sur l'indépendance des doigts. Chaque main doit jouer deux voix distinctes. Mais la couleur peut, elle doit même changer. La chanteuse de jazz Jo Stratford, elle l'a compris. Et quand elle reprend cette étude en 1950, sous le titre de No Other Love, qui sera l'un des plus grands succès de l'année aux États-Unis, eh bien, elle n'exprime pas la souffrance, mais bien la joie, la langueur, la sensualité d'être aimée et bien aimée. Dans la crainte de sa voix, l'étude résonne presque comme une étreinte. Oh, le doux contentement que je ressens avec toi. Chaque fois, chaque fois.
No other love can warm my heart now that I've known. No. love to love you till the stars burn out above you.
Il est un autre musicien, chanteur, qui sait ce que peut cette étude de Chopin, à la fois la sensualité, la chaleur qui a trouvé Joe Stratford, comme on vient de l'entendre, et le regret, la tristesse, chantée un peu pompeusement par Tino Rossi. Et lui, il en a joué très habilement. Il s'appelle Serge Gainsbourg, et en 1984, il retouche légèrement la partition de Chopin et joue sur son ambivalence intrinsèque, justement, pour traduire, sans jamais le nommer, l'amour précisément ambigu et fusionnel d'un père pour sa fille. C'est sulfureux, c'est Lemon Incest.
Ma performance, c'est de faire une chose que je pense n'avoir pas fait depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire de toucher au piano classique. Et je vais essayer de pas trop massacrer la valse de l'adieu de Chopin. Thank you.
comment vous le trouvez, vous, piano?
J'ai l'impression que c'est Horowitz.
Pas mal, hein?
C'est moi, ça?
Mais oui.
Putain.
Vous faites des grimaces.
J'ai oublié.
Vous avez oublié?
Bah oui, parce que maintenant, je suis au funk, rocky, enfin, tout ce qui est un peu dégueu. J'ai une passion pour Chopin. J'ai en ma possession un très rare document, qui est une lettre de Chopin. Je savais qu'il était mis en vente en Allemagne, et j'ai dit à tout prix, ce qui est le cas de le dire, je l'ai eu.
Mais est-ce que vous rejouez de temps en temps du piano comme ça?
Oh, je joue Gershwin, My Funny Valentine. Ou bien quelques airs slaves. Voilà, Nostalgie, Camarade.
Voilà, Nostalgie, Camarade, dit Gainsbourg en 1989. C'est sur France Inter. Il est l'invité de Leila Jetli et Christiane Lamazière dans une émission qui s'appelait Transmémoire Express. Et on l'entend très surpris de s'entendre jouer la valse de l'adieu de Chopin. La nostalgie, c'est celle de l'exil. En 1830, quand Chopin décide d'émigrer en France, il n'ose alors espérer que son pays, asservi, puisse se soulever contre la domination, notamment russe. Pourtant, l'année suivante, en 1831, c'est l'insurrection polonaise. Une révolution, comme un peu celle que viennent de tenter les Français, mais une révolution bien vite écrasée dans le sang. Chopin est seul, dans un Paris qu'il ne connaît pas. Il assiste, impuissant, à cet échec. Compose les études, donne des cours aux familles fortunées pour survivre. Il est désemparé. J'épanche mon désespoir sur le piano. À quoi cela sert-il? Comme lui, Joseph Ginsburg, le père de Serge, est un exilé qui a fui la Russie en 1919 et une révolution qui, elle, a peut-être un peu trop réussi. Pour arriver à Paris, où il survit comme pianiste dans des boîtes de jazz, mais il a le clavier plein d'âmes slaves, de mélancolie et de grande musique, surtout celle de Chopin, qui, comme aucune autre, en fait, emprunte au folklore slave autant qu'aux grands compositeurs et qui revendique l'émotion. Bach est un astronome qui découvre les plus merveilleuses étoiles. Beethoven se mesure à l'univers. Moi, je ne cherche qu'à exprimer l'âme et le cœur de l'homme, écrit Chopin. De l'exil naît cette espèce de note élégiaque, intraduisible, qui infuse toute sa musique. Ginsburg, fils, instruit par son père, va devenir Gainsbourg et puis, comme on l'entendait tout à l'heure, Gainsbourg. C'est grâce à cet héritage tant musical que culturel qu'il sait mettre à profit l'une des caractéristiques si particulières de la musique de Chopin. Le fameux rubato qui donne à sa musique toute son expressivité exceptionnelle et qui lui conserve sans doute aussi toute sa modernité. Ce rubato chopinesque, comme le disait Franz Liszt, son ami, figure hyper expressive héritée du bel canto italien que Chopin a beaucoup écouté, consiste en fait à déplacer le temps final de la mesure vers le premier temps de la mesure suivante. Littéralement, c'est du temps volé, rubato, volé en italien. Et en fait, il est au centre, ce rubato, du quatrième prélude de l'opus 28 en mi mineur que Gainsbourg met dans la bouche de sa toute jeune épouse, sublime et fragile, Jane Birkin.
Domicilié chez ses parents, il pleut, cheveux, châtain, Jane B, ta pâle, le nez, aquila, porté d'espoir, cela.
Certaines des œuvres les plus courtes de Chopin ont cette beauté nécessaire et pure de la résolution d'un problème. Et en art, bien poser un problème, c'est le résoudre, écrit André Vide, écrivain qui tout au long de sa vie a tenté de comprendre Chopin. Il en jouait d'ailleurs souvent. C'est le cas du très court et saisissant prélude en ut mineur de l'opus 28. 1 minute 27 à peine sous les doigts du pianiste russe Yevgeny Kissin, et qui va résoudre le problème d'un très jeune compositeur américain d'origine juive polonaise. On est en 1971, à New York. Il écrit des jingles pour la radio, le cinéma, pour les films de Disney notamment. Et le soir, il fait du cabaret. Il hésite à se lancer dans une carrière de chanteur solo car il est homosexuel et que c'est encore un tabou dans les maisons de disques. Tony Orlando, le légendaire patron de la Columbia Records, pourtant le repère et lui donne sa chance. C'est l'une de ses toutes premières sessions en studio. Il décide d'être efficace et de miser sur une valeur sûre, le prélude en ut mineur, qu'il arrange sommairement avec le texte d'une jeune parolière. Cela devient un titre qui s'appelle « Could it be magic ?» La simplicité, c'est la réussite absolue, promet Chopin. Le titre n'est pourtant pas un succès sur le moment, mais il devient très vite un hit lorsqu'il est repris quelques années plus tard par une jeune star montante de la disco, Donna Summer. Il contribue au prestige de ce jeune compositeur qui va devenir en fait l'un des plus prolifiques de l'histoire de la pop. Il s'appelle Barry Manilow.
Thank you.
compris. Transposer Chopin, presque mot à mot, en fait, c'est jouir de son génie mélodique et gagner presque à coup sûr. Mais Chopin a été aussi cité, intégré à des morceaux qui avaient leur propre logique. Dans les années 2000, un groupe originaire de Portland fait irruption dans le paysage musical. Tout, il est inclassable, il s'appelle Pink Martini, comme cette boisson légère. Tous ses membres, plus ou moins, sont passés par Harvard et le directeur musical, qui est aussi le pianiste du groupe, s'appelle Thomas Lauderdale. Il aime se définir comme un anthropologue du son et il est fou de Chopin. Il en met dans à peu près chacun des albums du groupe, comme par exemple dans ce titre, La Soledad, où l'on retrouve l'Andante Spianato de la grande polonaise brillante de Chopin, opus 22, en introduction de la chanson, mais aussi et surtout en citation. Pourquoi ? Eh bien parce que Chopin, lui, déjà, avait emprunté à la musique populaire polonaise au XIXe siècle, et il sait finalement comme aucun autre morceau classique se mêler au rythme cubain, aux couleurs à la fois tango et boléro de ce titre, et d'un coup, Chopin devient latin.
A mí, como poesía en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, no más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón. El sol se fue y yo cantando tu canción. La soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó la ilusión. No viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción.
Alors, en musique, il est un genre qui est féru de citations, et donc de citations de Chopin. C'est le rap et le R&B, où ceux qu'on appelle les beatmakers, producteurs, nourrissent leurs beats d'échantillons de musique, souvent classiques, qui viennent colorer le titre. Cet échantillon, c'est le sample en anglais, le sample. Et Chopin est sans doute avec, peut-être Mozart, Beethoven et Wagner, l'un des champions du sample. Le site de Digger, ceux qui creusent pour trouver des samples et leur origine, My Sample, référence plus de 45 citations de Chopin du début des années 90 à nos jours dans ses styles. Parmi ceux qu'il convient de citer, on peut évidemment évoquer la chanteuse de R&B Alicia Keys, excellente pianiste qui interprète souvent elle-même les sons de Chopin qu'elle va ensuite sampler, mais aussi Nas ou encore la chanteuse Estelle. En France, évidemment, patrie d'adoption de Chopin, eh bien, il est omniprésent. Dans ce qui est sans doute l'un des meilleurs morceaux de l'histoire du rap et qui raconte la nécessité de chanter, de jouer pour son peuple, sa patrie, sa tribu. That's My People de Supreme MTM.
Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer les spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique, tout
tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris de ça. J'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas, quand ça vient d'en bas. Et puis quand c'est pas, confiné, léché. Trop sophistiqué, c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pole. Position peu confortable mais c'est pas grave, j'aime le challenge. Porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes compas. Fatigué de cette farce, on veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Mes kiffs c'est de chiller, rester tranquille au sein des miens, me laisser aller à déballer. Des conneries parler juste pour parler. Pour faire le monde avec notre vision décalée. On est des fous, bloqués dans des cages d'escalier. Pris en otage, je parle nombre élevé de paliers. Et à la longue, mec, je t'assure, tout ça, ça pèse. 96, je vois toujours des braises allumées. Dans les yeux fatigués, des gosses du quartier. Passe, passe le mic, je développe mes idées contaminées. C'est vrai, je suis miné, mais déterminé à ne jamais vraiment lâcher l'affaire. Qu'est-ce que tu peux faire? Je suis pas là pour prendre des coups, bien même pour me taire. Si le FN prend sa femme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. Pas d'éclair, du gêné, juste un lyrique qui jaillit de mon esprit, dédicacé à mon poissé. Excuse au fait de prendre de l'âge. Si je sens pas les miens autour de moi, putain, c'est naufrage assuré. C'est vrai, je me sens rassuré. Qu'en présence de ceux que j'aime, je veux m'assurer que tout ce que je balance soit approuvé. Même si j'ai rien à prouver, je veux que tous mes potes puissent s'y retrouver. Je veux pouvoir les garder près, moi les regarder des 12 mois par an. L'ont fait mes parents pour moi, parce qu'après c'est trop tard. Faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont ibas. Au pire, c'est que t'as envie de pleurer. Plutôt que tu sais pas, dans ce cas je peux rien pour toi. J'ai pas la clé du bonheur, j'ai même jamais été à la hauteur. Pour ce genre de truc, mais aujourd'hui j'ai peur. Car l'horloge a tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné.
Grâce à NTM, on en revient à ce fameux prélude numéro 4 de l'opus 28 que chantait tout à l'heure Jane Birkin. Très aimé et repris dans un autre genre musical qui est évidemment très friand de Chopin, et pour cause, c'est le jazz. Chopin a en fait cela d'exceptionnel qu'il a construit une œuvre absolument monumentale, jouée encore aujourd'hui dans le monde entier, et ce à partir d'un seul et même instrument. Le piano. On sait que Chopin écrit peu pour les orchestres, il n'y prend que très peu de plaisir. Il fait partie, avec son ami et rival en tout cas sur scène, Franz Liszt, et un pianiste hors pair, de ceux qui vont permettre de développer les possibilités infinies du clavier moderne, qui doit beaucoup d'ailleurs à l'amitié entre Chopin et le facteur de piano Pleyel. Le grand plaisir de Chopin, ce n'est pas vraiment de jouer en concert, où le trac le terrorise, c'est d'improviser notamment à Nohant, la maison de George Sand, qui fut pendant plusieurs dizaines d'années sa compagne. Son modèle, particulièrement dans les préludes, mais aussi dans les nocturnes, c'est le violoniste virtuose Paganini, qu'il a découvert dans sa jeunesse et qu'il rêve d'égaler sur un autre instrument, le piano. Son écriture, d'une spontanéité qui est indémodable, en fait, de fait, un compositeur privilégié dans ce genre majeur du XXe siècle, que fut le jazz. Il existe d'ailleurs un mouvement entier du jazz dédié à Chopin en Pologne. Et tous les grands musiciens, quel que soit l'instrument qu'ils jouent, l'ont un jour repris, comme ici Jerry Mulligan en 1963. ¶¶ Par sa formation classique ou parce que justement il est jazzman dans une boîte à Rio de Janeiro, que le jeune Antonio Carlos Jobim apprend à jouer puis à déformer Chopin. Tom, comme on le surnomme, grandit dans la classe moyenne brésilienne. Il est jeune quand ses parents se séparent au début des années 40 et c'est son beau-père qui, pour le consoler, lui offre un piano qui va lui permettre de devenir l'un des jeunes espoirs des clubs assez huppés de la capitale brésilienne sur la plage d'Ipanema. Il y rencontre des musiciens, un diplomate, poète, Vinicius de Moraes, avec qui il commence à composer. La classe moyenne brésilienne s'enivre alors de la voix de Sinatra et rejette la samba, musique trop populaire. Jobim va faire partie, avec le guitariste João Gilberto, de ceux qui vont inventer un genre à la fois joyeux, mais aussi doux amer, empli de saudade, cette forme de nostalgie par anticipation de la perte du moment présent. Nostalgie qui convient en fait très bien à celle de Chopin l'exilé, Chopin l'homme heureux par la musique, mais l'homme diminué par la maladie. Jobim sort en 63 un album qui va véritablement marquer la naissance de ce genre nouveau, la Bossa Nova, et on y retrouve un titre qui va devenir l'un des plus grands standards du monde, Insensatege, qu'il doit absolument au prélude numéro 4, comme Tom le montre dans cet enregistrement.
Coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Vai, meu a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão, apaixonado. E vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Só sinceridade. Quem semeia vento diz a razão, colhe sempre tempestade e vai. Meu coração pede perdão, perdão apaixonado.
Il n'y a pas que chez Tom Jobim que le prélude numéro 4 de l'opus 28 a infusé. Ce qui en fait, un hit de ce prélude, c'est, comme l'explique le musicologue Michel Fleury, cette lente dérive chromatique d'accords qui est à la main gauche. Pour la faire courte, dans ce morceau que nous écoutons depuis presque 20 minutes, ça descend inéluctablement. Il reste la main droite, une mélodie, comme une plainte distraite, entièrement construite sur deux petites notes qui sont collées. Est-ce que vous les entendez ? Ici, c'est le pianiste de jazz Brad Meldo qui reprend l'un des groupes les plus créatifs, les plus aimés de moi, du XXe siècle. Radiohead, le groupe britannique, a marqué les esprits avec ses deux prodigieux premiers albums. Et alors qu'on est en 1997, il s'apprête à sortir un troisième album, OK Computer, qui lui va littéralement le placer en orbite. Mais il a attiré l'attention d'un réalisateur australien qui s'appelle Baz Luhrmann, et qui veut proposer au cinéma une relecture moderne de Roméo et Juliette, le classique de Shakespeare. Il leur demande donc de composer le thème final de ce film. Radiohead accepte. Et ça donne en fait au même exercice de style que Luhrmann. On va prendre un classique, toujours notre même prélude. On prend sa construction harmonique, on lui donne une texture progressive, et on lui offre ce que peut-être elle méritait depuis le début, une explosion finale, la petite mort, peut-être l'orgasme, peut-être les deux. C'est l'exit music for a film.
Wait. from your sleep. The drying of your tears today. We escape, we escape. Pack and get dressed before your father hears us. Before a song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill.
L'exit music song for a film de Radiohead qui ont poussé les deux petites notes plaintives de Chopin jusqu'à l'explosion. Ces deux petites notes, elles ont aussi atterri dans l'oreille d'un des animaux musicaux sans doute les plus intéressants de l'ère que nous vivons. L'Israélien Asaf Avidan, qui a en fait de nombreux points communs avec Chopin. Fils de diplomate, il a passé plus de 5 ans, sa toute petite enfance, en Jamaïque, avant de rentrer en Israël, pays dont, disait-il, il n'avait pas l'appréhension sensorielle. Assez jeune, vers l'âge de 20 ans, on lui découvre un lymphome contre lequel il se battra pendant plusieurs années. Chopin, lui, on le sait, était tuberculeux depuis l'âge de 17 ans. Toute sa vie, qui finira assez jeune, à 39 ans, il combattra la maladie qui l'affaiblit. L'autre point commun d'Asaf Avidan, c'est cette voix androgyne, les cordes vibrantes, qui sont une signature si particulière, qui trouble le pavillon de nos oreilles pour qui la musique serait une affaire de genre. « Il vous faut chanter si vous voulez jouer du piano », écrivait
Chopin. Chopin qui a toujours admiré et cherché dans la composition à imiter le bel canto. Chopin qui lui aussi sans doute était assez androgyne. Son physique de phtisique, comme on disait à l'époque, lui donnait peu d'intérêt pour les choses de la chair et il semblerait peut-être qu'il ait aimé dans sa jeunesse un jeune garçon. Assaf Avidan, à la différence de Chopin, était un illettré musical quand il se met à la musique, surtout un surdoué de la vidéo. Il fait des études dans le domaine des films d'animation. Mais sa musique, comme celle de Chopin, tente de conjurer ses cauchemars par la musique et provoque des images absolument folles. Exactement comme Chopin, qui avait transfiguré dans ses préludes les gouttes d'eau qui ne cessaient de pleuvoir sur la maison où il était allé à Majorque, censé se soigner la santé avec George Sand, où le climat était terrible, où sa santé s'aggrave et sa relation avec George Sand se délite. En 2020, Assaf Avidan propose Lost Horses, une chanson sur la perte de sa jument, où lui aussi, il travaille sur ces petites notes plaintives qui donnent au prélude toute sa spécificité.
Undulating back and forth, but it's too late, and there's no cure, no sedating all this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps your little feet in. Silver boots make while I'm fleeing town, and I can't get around to being not surprised by memory speeding on the road on which we're bleeding low. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly on me. The sundown father gods we were born.
Chopin, ce compositeur immortel, reconnaissable entre tous, indémodable et pourtant soluble, on l'a vu dans presque tous les genres, source illimitée de toutes les interprétations. Il est en fait sans doute impossible de répondre à cette question rationnellement, mais il est un autre pianiste de génie qui, à l'heure du départ, nous donne une dernière piste. Chick Corea, dans son disque Plays, paru début 2020, le pianiste de jazz le plus fertile, le plus excessif du XXe siècle, a alors 78 ans. Il a tout au long de sa carrière exploré tout ce que le piano peut toucher. Il a avalé, recraché le rock, la samba, le flamenco, improvisant, s'appropriant tout, avec génie la plupart du temps, avec mauvais goût, jusqu'à l'excès, jusqu'à la mégalomanie infertile, diront certains. Mais Plays est un album en forme de masterclass où il revient aux essentiels. Scarlatti, Beethoven, Gershwin, Jobim et évidemment Chopin. Au mi-temps du disque surgit toujours ce fameux prélude qui nous accompagne depuis plus de 25 minutes maintenant, dans une version très épurée, pourtant très personnelle. Alors que le jazzman, on le sait maintenant, luttait sans que personne ne le sache contre une forme rare de cancer qui a fini par l'emporter en février dernier. Quelle différence y a-t-il entre Debussy, Chopin, Gershwin ? Je laisse les auditeurs se faire un avis, mais pour moi, il n'y en a aucune, écrit-il dans le livret. On sera sans doute d'accord avec lui.
C'est la fin de cette émission Chopin l'éternel retour qui a été savamment préparée avec le concours de Pascaline Bonnet. Elle a été réalisée avec talent par Louise André et mise en onde par Jean-Guilain Meige. Vous pouvez bien sûr la retrouver en ligne sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur toutes les bonnes applications de podcast. Demain, on se retrouve pour la suite de cette série L'éternel retour et on analysera comment la musique yiddish imbibe en réalité toute la variété française mais aussi internationale.